présenté ce soir par Claire Flochel. Bonsoir Claire.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le télétravail devient la règle à l'Élysée. Emmanuel Macron diagnostiqué positif au Covid-19. Son Premier ministre s'isole et le prochain Conseil des ministres lundi aura lieu en visioconférence. C'est en fait toute une ribambelle de personnages au sommet de l'État qui sont cas contact. On va le voir au début de ce journal avec Solène Cressan. Nous reviendrons aussi sur les résultats d'une étude très attendue du professeur Fontanet sur les principaux lieux et vecteurs de contamination avec Solène Lehen. L'emprunt immobilier s'assouplit, la durée maximum d'endettement va passer de 25 à 27 ans et le taux maximum d'endettement va être porté à 35% contre 33% précédemment. Les précisions d'Anne-Laure Chouin dans ce journal. On rejoindra aussi notre correspondante au Nigeria où le groupe djihadiste Boko Haram diffuse aujourd'hui une vidéo. Le visage des lycéens enlevés y apparaît, il serait plus de 500. Emmanuel Macron continue de travailler, mais à distance pour les 7 prochains jours. C'est la règle. Le chef de l'État testé positif au Covid-19 après un test PCR et de légers symptômes. L'annonce est arrivée par communiqué de l'Élysée ce matin. Un président contaminé, Solène Cressan, et comme un effet domino, c'est toute une partie de la classe politique française qui se retrouve cas contact et donc isolée.
Avec en premier lieu Jean Castex. Mais le Premier ministre est négatif. Testé ce midi, il reste isolé et refera un test dans 7 jours, comme le veut le protocole sanitaire. Brigitte Macron est aussi à l'isolement, sans symptômes, testée négative ce matin, précise l'Élysée. Mais hier soir, un dîner à l'Élysée a réuni une dizaine de personnes pour préparer les élections régionales. Se pose alors la question d'un éventuel cluster. Était présent Jean Castex, donc. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui s'est isolé. François Bayrou, président du Modem, ou encore le chef des députés marcheurs, Christophe Castaner. Mais l'Élysée l'assure, même si la jauge des 6 convives a été dépassée, le protocole sanitaire était strict, la table grande. Des contacts aussi avec des présidents de groupes parlementaires qui ont déjeuné mardi avec Emmanuel Macron, comme Damien Abad, des Républicains. Il va s'isoler, même si l'Élysée lui a confirmé qu'il n'était pas qu'à contact.
C'est au moment du déjeuner, effectivement, où il n'y avait plus le port du masque, mais il y avait la distance. Le risque zéro n'existe pas. Il faut bien sûr de la prudence, de la vigilance. Après, se faire tester à chaque fois que vous avez un déjeuner, c'est compliqué.
Alors, le président a-t-il eu trop de contacts cette semaine? Le député marcheur Olivier Becht, présent au déjeuner de mardi avec le chef de l'État, ne veut pas de polémique.
Le président de la République est comme n'importe quel Français, il est au travail lorsqu'il peut travailler. Bien sûr, il prend des risques en rencontrant les gens, mais il y a un certain nombre de négociations qui ne peuvent pas se faire par visioconférence pour pouvoir avancer sur les dossiers.
Alors l'Élysée maintient en visioconférence le dernier Conseil des ministres de l'année prévu lundi prochain, le 21 décembre, jour de l'anniversaire d'Emmanuel Macron qui fêtera isolé donc, c'est 43 ans.
Solène Cressan, merci. À l'étranger, pas moins de 5 dirigeants européens ont annoncé se placer à l'isolement par précaution, dont Pedro Sanchez et Charles Michel. Le chef du gouvernement espagnol et le président du Conseil européen avaient rencontré récemment Emmanuel Macron à Paris. En revanche, la présidente de la Commission européenne n'a pas jugé nécessaire de se placer en quarantaine. Ursula von der Leyen, qui par ailleurs a annoncé ce matin que la vaccination anti-Covid dans toute l'Europe débutera le 27 décembre, l'Europe n'attend plus que le feu vert de son agence des médicaments attendu le 21. Emmanuel Macron, évidemment, n'est pas le premier dirigeant à être infecté, mais tous ne l'ont pas annoncé, ni vécu de la même manière. Est-ce que la maladie peut devenir un instrument de communication comme l'ont employé un Donald Trump ou un Jair Bolsonaro? Élise Delève s'est penchée sur la question.
Au début de l'épidémie, on se souvient de ces dirigeants qui niaient l'existence du Covid ou de sa dangerosité. Et c'est l'un d'entre eux, Boris Johnson, qui est le premier dirigeant à être infecté en mars. 10 jours plus tard, il est transféré à l'hôpital et passe 3 nuits en soins intensifs. Les Britanniques se posent alors cette question, qui pour diriger la Grande-Bretagne? C'est son vice-premier ministre, Dominic Raab, qui communique lors de conférences de presse, puis des messages envoyés par le cabinet du 10 Downing Street. Un autre dirigeant covido-sceptique, Jair Bolsonaro, a lui utilisé les réseaux sociaux. Il est infecté lors de ses nombreux bains de foule en juillet. Il met en scène sa convalescence dans des vidéos postées sur Facebook. « Je vais bien », affirme-t-il, assis à son bureau, en ingurgitant le controversé hydroxychloroquine. Il n'a jamais eu de symptômes graves et s'en sort indemne. On se souvient aussi des images de Donald Trump à l'hôpital. Le président américain est hospitalisé pendant 3 jours en octobre en pleine campagne présidentielle. Il affirme que tout va bien, qu'il continue à travailler. La Maison-Blanche, elle, reste prudente. Beaucoup de confusion autour de la communication de l'équipe du président et des médecins qui se contredisent. Donald Trump a ensuite repris ses meetings de campagne sans masque. Il y a aussi les dirigeants qui cachent leur maladie. Le président algérien Tebboune a attendu 2 semaines pour annoncer qu'il était positif et qu'il était parti se faire soigner en Allemagne. Il y est toujours.
Élise Delève, on ne sait pas encore comment a été contaminé Emmanuel Macron. On l'a vu avec Solène Cressan, on sait qu'il y a eu ce déjeuner avec les chefs de groupe parlementaires mardi, ce dîner aussi avec les figures de la majorité hier soir. Et ce que l'on apprend aujourd'hui, même si ce n'est pas une très grosse surprise, c'est que les repas en général jouent un rôle central dans les contaminations au Covid-19. C'est le résultat de l'étude très attendue du professeur Fontanet sur les lieux les plus à risque. Un document préparé par l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique. Il confirme que c'est dans les bars, les restaurants, mais aussi lors de repas en famille ou entre amis que le virus circule le plus. Solène Lehen.
Les épidémiologistes ont comparé les comportements de Français contaminés et non contaminés. Résultat, parmi les personnes qui ont été le moins infectées, on trouve les enseignants, les étudiants, les personnes qui ont pris le bus ou le tramway ou encore ont fréquenté les magasins. Aucune donnée sur les lieux culturels, le métro ou le train. À l'inverse, les personnes contaminées déclarent davantage avoir fréquenté les restaurants, les bars et les salles de sport, ce qui semble confirmer le choix du gouvernement de garder ces lieux fermés. Mais si on y regarde de plus près, on peut se demander comment les malades ont-ils pu se contaminer dans ces lieux. Quand l'étude a démarré le 17 octobre, une grande partie des bars et des salles de sport étaient déjà fermées, dans les grandes métropoles notamment. Puis, pendant le confinement, là c'était totalement impossible d'y être contaminé, ces établissements étaient tous fermés. Les déclarations des malades posent donc question. D'ailleurs, l'auteur de l'étude, le professeur Arnaud Fontanet, demande, je cite, d'être prudent dans l'interprétation de ces résultats.
Solène Lehen. Comme aujourd'hui, demain, les parents ont encore la possibilité de garder les enfants à la maison pour s'auto-confiner à l'approche des fêtes. Voilà qui relance les interrogations sur la contagiosité des enfants. L'idée est d'éviter un effet Thanksgiving, comme aux États-Unis où la barre des 200 000 cas quotidiens a été dépassée sur 11 des 14 derniers jours. En 24 heures, le pays a enregistré un très lourd bilan de plus de 3 700 morts, et les spécialistes redoutent que la situation n'empire encore avec les fêtes de fin d'année. Comme pour donner l'exemple, le président américain Joe Biden se fera vacciner contre le coronavirus dès la fin de la semaine prochaine. Le vice-président américain Mike Pence sera quant à lui vacciné demain. Les internes en médecine protestent. Une quarantaine d'entre eux se sont rassemblés aujourd'hui devant le ministère de la Santé. Ils refusent en fait qu'on leur supprime la possibilité de remplacer des médecins au début de leur internat. Les représentants des syndicats ont été reçus par l'un des conseillers d'Olivier Véran. Et ça fait un moment, Tarache Légal, qu'un décret est attendu.
Oui, c'est un dossier qui paraît un peu technique, mais qui a beaucoup d'implications. Et pour l'instant, ce décret est repoussé jusqu'au mois d'avril. Le gouvernement voulait, sous l'impulsion de l'Ordre des médecins, interdire aux internes de remplacer des collègues, souvent en libéral, dès leur 5e semestre d'internat. C'est-à-dire quand ils ont déjà 6 ans d'études, plus 2 ans de spécialité, mais qu'ils n'ont pas encore passé leur thèse, qui n'arrive que 2 ans après environ. L'un des arguments serait que les internes ne sont pas assez bien formés à ce moment-là, alors qu'ils font déjà des gardes tout seuls à l'hôpital, comme le rappelle Mathieu Cavaillé, interne en ophtalmologie.
L'argument de compétence, pour moi, ne tient pas. Déjà, ce qu'on voit en libéral en médecine de ville, c'est des choses beaucoup plus simples, quotidiennes. Il n'y a aucun moment où je stresse en libéral, alors que ça m'arrive quand je suis de garde, évidemment, à l'hôpital. Quand on voit pendant la crise des gilets jaunes, j'ai eu des patients qui avaient l'œil explosé par les grenades de désencerclement. Enfin, j'ai eu des patients comme ça où j'étais tout seul. Bah, c'est infiniment plus stressant et angoissant que quand on a un patient qui vient nous voir pour des lunettes, pour une conjonctivite, voilà.
Ces remplacements permettent à Mathieu de financer son année de recherche actuelle qu'il mène sans être payé. Sinon, dit-il, il devra l'arrêter. De toute façon, ajoute Nicolas Kitic, qui est l'un des vice-présidents de l'ISNI, l'intersyndicale des internes, sans ces remplacements, beaucoup d'étudiants vont se précariser encore plus.
Un interne en Allemagne, par exemple, sera payé 3500 euros par mois. Un interne de première année en France, après 6 années, 7 années d'études extrêmement difficiles, une sélection, une pression psychologique énorme, et payer 1500 euros par mois pour 58 heures de travail par semaine en moyenne. Donc il faut savoir que les internes de spé chirurgical comme la neurochirurgie par exemple, on a plusieurs exemples qui travaillent à 100 heures par semaine.
et toujours pour 1 500 euros par mois. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Ces remplacements permettent aussi d'assurer la continuité des soins. Les médecins qui demandent aux internes de les remplacer offrent ainsi à leur patientèle une alternative. Et puis, pour ces futurs médecins qui passent 80% de leur formation à l'hôpital, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres horizons, de travailler en clinique, etc. Bref, les syndicats avaient beaucoup d'arguments à faire valoir. Ils vont pouvoir les répéter lors de la concertation qui débute.
Précision signée Tara Schlegel, merci beaucoup. Elle ne s'était pas exprimée depuis la démission de la maire de Marseille, l'écologiste Michel Rubirola. C'est désormais chose faite. Samia Ghali a dit aujourd'hui qu'elle allait soutenir Benoît Payan. La deuxième adjointe à la mairie de Marseille va voter pour le premier adjoint socialiste au prochain conseil municipal. Son ralliement avait été déterminant dans la victoire de la gauche aux municipales marseillaises. La Nouvelle-Calédonie, toujours touchée par des exactions, débordements, violences et contestations, font l'actualité autour de la vente de l'usine de nickel du groupe Vale. Vente soutenue par les anti-indépendantistes et contestée par les indépendantistes. Les gisements de nickel calédoniens représentent environ un tiers des réserves mondiales de nickel. Un appel au calme a été lancé mardi matin par le haut-commissaire de la République. Et aujourd'hui, les députés UDI de la Nouvelle-Calédonie demande à l'État de prendre temporairement le contrôle de l'usine. La situation sur place s'est un peu calmée, Stéphane Robert, mais pas forcément pour très longtemps.
Il y a encore eu des dégradations lundi soir, notamment des locaux incendiés au sein de l'usine de nickel du groupe brésilien Vale. Mais il n'y a plus de barrages sur les routes et comparé à la semaine dernière, la situation s'est apaisée, assure le député de Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez.
Il y a une trêve aujourd'hui qui a été décidée par les indépendantistes. Mais bon, la question c'est, après le 1er janvier, est-ce que les actions reprennent et si oui, dans quelle dimension?
La crainte sur place, c'est une nouvelle flambée de violence juste après les fêtes de fin d'année. Car si les anti-indépendantistes soutiennent la vente de l'usine de nickel du Sud à un consortium international piloté par le Suisse Trafigura, les indépendantistes, eux, rejettent cette vente de façon catégorique. Et la question s'est envenimée au point que les armes ont été ressorties comme dans les années 80. Raison pour laquelle le député Philippe Gomez demande à l'État français de nationaliser temporairement l'usine Vale.
Ce que je crois, c'est que cette solution, elle permet à tout le monde de sortir la tête haute. Les indépendantistes, parce que finalement, on leur impose pas ce qui avait été prévu par l'État et la province sud, c'est-à-dire le groupe Trafigura, et les non-indépendantistes, notamment à la province sud, en disant, ben voilà, l'État prend la main, donc si l'État prend la main, c'est la garantie du traitement sérieux et professionnel de ce dossier-là. Donc, ça peut à la fois donner du temps, et puis ça peut permettre à tout le monde de sortir en considérant avoir été respecté.
La question du nickel en Nouvelle-Calédonie est éminemment politique. Le sous-sol calédonien en regorge. Les indépendantistes y voient une source de financement du futur État calédonien et la perspective d'un troisième référendum d'ici 2022 sur l'indépendance de l'archipel échauffe les esprits. En octobre dernier, le oui à l'indépendance avait atteint 47% des suffrages exprimés.
Stéphane Robert, c'était une demande des acteurs de l'immobilier, assouplir les conditions d'octroi des prêts immobiliers aux ménages, notamment ce qu'on appelle les primo-accédants. Ces derniers mois, en effet, de plus en plus de dossiers étaient refusés par les banques, des dossiers pourtant jugés sérieux par les agences immobilières. Mais voilà, la Banque de France, craignant que les ménages ne se surendettent, avait fortement incité les banques à réduire le robinet du crédit sous pression du secteur immobilier. Le Haut Conseil de stabilité financière, qui associe entre autres le ministère de l'économie et la Banque de France, a donc décidé ce matin d'assouplir les règles à leur choix.
On pourra désormais s'endetter sur 27 ans au maximum contre 25 ans auparavant et surtout le taux maximum d'endettement, ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire la proportion des revenus utilisés pour rembourser son crédit qui était jusque-là de 33% maximum est porté à 35%, ce qui va permettre à beaucoup d'emprunteurs d'augmenter leur volume d'emprunt. Pour Sandrine Alonier, analyste financière dans une société de courtage immobilier, ces mesures auront un impact rapide et surtout très visible.
Ces mesures vont avoir à la fois un impact microéconomique pour les emprunteurs, pour tous ceux qui ont un projet, notamment ceux qui achètent pour la première fois. Ils vont pouvoir emprunter plus, ils vont pouvoir ne plus être limités dans leur capacité d'endettement grâce à ce taux d'endettement qui va passer de 33 à 35% maximum. Mais ça va également avoir un impact macroéconomique, notamment dans le secteur du logement et du neuf, puisque maintenant on va pouvoir emprunter sur 27 ans au lieu de 25 ans. Et c'était finalement le secteur de la construction qui avait été le plus impacté par ces mesures, puisqu'on avait une baisse baisse des crédits de 30% dans le secteur du neuf. Donc ça va vraiment permettre une relance du marché du logement et de la construction qui est un marché essentiel en termes d'emploi.
Les acteurs de l'immobilier craignaient que le marché ne s'essouffle, même si malgré la crise, il n'a jamais vraiment perdu son essor. Bercy estime de son côté que ces ajustements offrent à la fois plus de souplesse pour les banques et correspondent à un besoin exprimé par les ménages. Mais en contrepartie, ces mesures qui n'étaient jusqu'alors que des recommandations aux banques deviendront des contraintes dès l'été prochain.
Anne-Laure Chouin. Hier, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict au procès des attentats de janvier 2015 en France. Que nous a raconté ce procès? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat après ce journal. Et aujourd'hui, c'est un autre procès qui s'est terminé, celui de l'attaque déjouée du Thalys. Procès que vous avez suivi, Corinne Audouin. Bonsoir.
Bonsoir.
Corinne, le verdict est tombé il y a quelques minutes. Le tireur Ayoub El-Kazani est condamné à la prison à perpétuité.
Oui, la peine maximale pour Ayoub El-Kazani, c'est conforme aux réquisitions de l'avocat général. Il est reconnu coupable de tentative d'assassinat terroriste. Vous êtes monté dans le Thalys armé d'un véritable arsenal, a expliqué le président de la cour d'assises spéciale. Une kalachnikov, un pistolet et un cutter. Vous avez volontairement tiré dans le dos de Marc Mougalian, le passager qui lui avait pris sa kalachnikov. Ce professeur franco-américain, l'un des héros du Thalys, était dans la salle. La cour n'a pas cru aux explications d'Ayoub El-Kazani. Il avait dit avoir renoncé à tuer après avoir croisé le regard d'un des soldats américains qui l'ont désarmé et immobilisé. Vous vouliez supprimer aveuglément tous les passagers du wagon 12. Votre objectif était la tuerie de masse, assène le président. Un attentat qui, pour la cour d'assises, s'inscrit dans la vaste campagne dirigée par l'État islamique et qui trouvera son apogée dans les attentats de Paris et de Bruxelles en mars 2016. Ayoub El-Kazani, 31 ans, chemise à carreaux, cheveux noués en chignon, n'a pas exprimé d'émotion à la lecture du verdict. À ses côtés, Bilal Chatra et Mohamed Bakali sont condamnés pour complicité à 27 ans et 25 ans de réclusion criminelle pour leur aide logistique dans la préparation de cet attentat. Tous sont interdits définitivement du territoire français.
Merci beaucoup Corinne Audouin en direct du Palais de Justice de Paris. Les pressions et la communication du groupe djihadiste Boko Haram. Il diffuse aujourd'hui une vidéo dans laquelle on peut voir quelques-uns des 520 élèves enlevés dans un lycée vendredi dernier. Boko Haram avait déjà enlevé 200 jeunes filles en 2014. Lisa Fabian.
Ils sont des dizaines massés sous les arbres, la mine poussiéreuse et les traits tirés par la fatigue et la peur. Devant la caméra de ses ravisseurs, un des lycéens prend la parole pour supplier les autorités nigérianes de leur venir en aide. Le garçon explique que les adolescents enlevés loin de leur pensionnat de Kankara sont au nombre de 520. Certains auraient même déjà été tués, affirme-t-il. À la fin de cette vidéo, cet enlèvement spectaculaire est revendiqué une nouvelle fois par Aboubakar Shekau à la tête d'une faction du groupe Boko Haram. Maintenant, la vérité éclate. Voici mes hommes et vos enfants ont parlé, affirme-t-il. Des questions subsistent pourtant sur l'identité des hommes armés que l'on aperçoit sur ces images. La plupart des sources s'accordent à dire que ce sont des bandits bien implantés dans la région qui ont emmené les lycéens de Katsina avant de les séparer en plusieurs groupes et de les confier à des gangs locaux. La nature de la relation qui unit ces groupes criminels du nord-ouest du Nigeria au chef de Boko Haram pourrait être purement transactionnelle ou beaucoup plus idéologique, comme l'affirme Aboubakar Shekau dans ce nouveau message.
Lisa Fabian, correspondante de RFI pour France Culture. En Russie, Vladimir Poutine s'est amusé aujourd'hui avec ironie de l'enquête de certains médias occidentaux concernant l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. En conférence de presse annuelle, le président russe n'a pas hésité à dire que si ses services avaient voulu, ils auraient pu empoisonner l'opposant numéro 1 du Kremlin facilement. Claude Brouillot.
En plus de 20 ans de pouvoir, Vladimir Poutine est passé maître dans l'art de manier l'ironie. En visioconférence de presse annuelle depuis sa résidence de Novogoryovo, le président russe a balayé d'un revers de main l'enquête de plusieurs médias occidentaux sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, la qualifiant d'opération visant à légitimer des contenus issus de services spéciaux américains. Et pour montrer qu'il n'était pas atteint, tout du moins officiellement, par cette enquête, Vladimir Poutine n'a pas hésité à jouer avec l'hypothèse selon laquelle son opposant principal pourrait être un agent à la solde de ces mêmes services étrangers.
Si c'est vrai qu'il collabore avec les services américains, c'est intéressant et il faut le surveiller. Mais cela cela ne veut pas dire qu'il a été empoisonné. Et pour quelle raison aurait-il fallu le faire? Si on avait voulu, on l'aurait fait facilement. Et quand sa femme m'a demandé de l'aide, j'ai fait le nécessaire pour son traitement.
Cette énième version du Kremlin qui succède à l'empoisonnement volontaire d'Alexeï Navalny ou encore à celle de ses pseudo-problèmes d'alcool ajoute encore à la pression qui s'exprimera de part et d'autre le jour où Alexeï Navalny décidera de revenir en Russie.
Claude Brouillot. Et puis la Russie qui par ailleurs est exclue pour 2 ans de toute compétition sportive internationale. Décision du tribunal arbitral du sport qui sanctionne le dopage pratiqué par les athlètes russes. Ils ne participeront ni aux Jeux de Tokyo l'été prochain, ni aux Jeux d'hiver de Pékin en 2022. Un mot de la météo de demain, de la pluie à prévoir sur la Bretagne et les Cévennes. Partout la grisaille prédominera, à part en montagne où le soleil se montrera beaucoup plus généreux. Demain matin, les températures seront comprises entre 1 et 5 degrés sur un bon quart nord-est du pays. Il fera 5 à 10 sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.